de pluvieux mettent les canalisations en rude épreuve à Reims. Une artère du centre-ville a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines, l'avenue Jean Jaurès, engloutie par des torrents d'eau à 3 reprises le mois dernier.
Le plan hors sec a été déclenché dès ce matin, mobilisant toutes les ressources en hommes et en matériel de la région.
2 mètres d'eau, Nîmes est sous 2 mètres d'eau.
3 octobre 88. Tous les 20 heures, ouvrent avec les images du déluge qui s'est abattu sur Nîmes.
L'île couleur boue, les quais de Périgueux sous l'eau. Même spectacle au bord de la Dordogne.
En une nuit, il est tombé plus de 3 semaines de pluie sur Manille, conséquence du passage de la tempête tropicale Phung Mong. L'un des plus importants cours d'eau de la capitale des Philippines est sorti de son lit.
La Venise du Japon, la ville de Kurashiki, est littéralement sous les eaux après plusieurs jours d'intempéries.
Cinquième session de l'onde dilettante. Bonjour à Mathieu Dupérex.
Bonjour.
Bonjour à Alexis Pernet.
Bonjour.
Alors, l'onde dilettante numéro 5 est dédiée aujourd'hui peut-être à la catastrophe, à l'inondation. Et pour illustrer cette catastrophe aujourd'hui avec des eaux, j'ai choisi 3 eaux. Donc nous allons commencer par une eau d'inondation, justement. Donc je vous présenterai juste après. Une deuxième eau dont on parlera, qui est une eau sale. Et une troisième eau, une eau de congélateur. Nous allons démarrer avec cette eau d'inondation. Cette eau d'inondation, c'est une eau... il faut s'imaginer les îles Fidji, la vallée de Pédourès, du côté de la Haute-Ariège. Donc elle s'appelle l'eau pure. Il faut imaginer également Saint-Blaise, dont on avait goûté les eaux en début de semaine. Et toutes ces eaux se sont réunies pour dévaler les pentes et affoler les populations en détruisant et en emportant les voitures et autres objets de nos civilisations. Je vous propose une dégustation de ces eaux débordantes. Qui doit déborder,
pas trop.
Qui doit déborder un petit peu, bien entendu.
Ce qui est important, c'est ça. Il faut qu'elle déborde. Voilà. C'est-à-dire que si c'était intéressant sur le quand tu as versé quand tu as rempli le verre de Mathieu. Je note que c'était plus intéressant sur le verre de Mathieu que sur le mien parce que le verre de Mathieu a débordé et il n'a pas débordé de façon circulaire. De façon, il a débordé par le point forcément le plus bas. C'est-à-dire que même sur cette table qui nous semble horizontale, sur ce verre qui nous semble correctement conformé à un modèle identique à d'autres, à 100 000 autres, eh bien, il y a un point bas. Et ce point bas, l'eau, voilà, non pas la choisie intentionnellement, mais même sur des six petits objets, des six petits fragments d'un bassin versant, on a rétabli un écoulement. C'est merveilleux. Nous sommes une partie du bassin versant, là, sur ce sol en béton, sur cette table avec ces verres. Nous restons une partie du bassin versant.
On goûte ?
On goûte.
On goûte.
Ça déborde plus.
En tout cas, on vient de résoudre un problème d'étiage.
On l'a rétabli dans son lit.
Là, c'est dans le lit. Donc,
Allez, tout est sous contrôle, Mathieu. Tu veux rejouer le rôle de l'inondation ? De la crue d'après, on attend et on oublie que l'eau peut remplir à nouveau le verre et déborder. Et là, le débordement arrive et nous surprend et nous chagrine, nous fâche parce que... Mais là, j'ai encore la mémoire. Vas-y, verse. Mais j'ai la mémoire de débordement de tout à l'heure. Il ne me surprend pas. Je me suis déjà retiré. Je sais ce qui va arriver. Là, Mathieu est sur des niveaux de crues qu'on dit décennales, voilà. Des crues de retour assez fréquentes. Tous les 10 ans, statistiquement, une crue qui va se produire en moyenne, qui peut arriver dans les 10 prochaines années. Celle qui nous inquiète, c'est la centennale, par exemple. C'est pour la Seine, la crue de 1910, qui, heureusement pour les Parisiens et grands Parisiens d'aujourd'hui, ne s'est pas reproduite. Et c'est celle qui engendrerait 45 milliards d'euros de dégâts si elle se reproduisait aujourd'hui. Mais là, voilà, chez Mathieu, non, là, c'est même de la petite crue annuelle. Très sympa, normal. normal. L'eau est faite pour aussi s'étaler dans les espaces.
Mais sinon,
espaces.
Je fais des investissements d'infrastructures. Donc voilà, je suis un bon ingénieur, je renforce mes digues.
J'allais poser la question, si on met des digues, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de crue, que les eaux ne partent pas à tout va dans le paysage.
Les digues peuvent être aussi conçues pour certains niveaux de crue et contenir, c'est le cas de la Loire, à Jargeau par exemple, des fusibles. C'est-à-dire qu'une digue maçonnée, un peu armée, un peu équipée, peut contenir une portion qui est en terre et qui, face à un certain niveau et une certaine pression de l'eau, va sauter et va conduire l'inondation dans un bras mort, un bras de décharge, un espace qui va essayer de réguler et d'absorber un trop-plein de la crue. Donc une digue n'est pas si étanche que ça. Elle peut être à dessein, abaissée, ouverte.
Passons à la deuxième dégustation. Donc la deuxième dégustation, c'est une eau qui est là depuis quelques jours. C'est cette eau de Vittel. Je déplore de citer la marque, mais bon, c'est dans le sujet. Donc elle a été goûtée récemment. Et il se trouve qu'on a découvert il y a quelques années que même ces eaux minérales contenaient des résidus de plastique. Et en fait, à la fois, cette notion de marque et cette notion de plastique m'a fait penser à Michel Serres. Michel Serres a écrit ce livre qui s'appelle « Le malpropre », où il explique que comme le chien marque son territoire en faisant pipi à gauche et à droite autour de son territoire, l'être humain marque son territoire, prend possession de son territoire en le polluant. Et en le marquant, par exemple, avec des marques commerciales. Mathieu, toi qui as travaillé, qui a cheminé en particulier du côté du Rhône, et dans ce delta, il y a une ville industrielle qui s'appelle Gardanne, avec des boues rouges. C'est aussi donc une notion de pollution, une notion de propriété, peut-être. Peut-être peux-tu nous en parler. Est-ce qu'on est dans le domaine de la catastrophe, là, également?
Alors Cousteau disait que non, parce que l'entreprise de Gardanne avait commandité un reportage de Cousteau pour montrer finalement que les boues rouges tirées du traitement de l'alumine, industriel de l'alumine, étaient sans danger à partir du moment où elles restaient en repos dans la fosse de Cassidaigne, près de Cassis. En fait, bon, il y a du cadmium, du plomb, il y a tout un ensemble de choses, certaines de nature radioactive, des pollutions très, très concentrées. Mais l'hypothèse était qu'il y avait un trou, vraiment un trou dans le plancher maritime et qu'on pouvait le combler à volonté, en fait, avec des rejets de production, sachant que pour une tonne d'aluminium... des aluminiums spéciaux que fabrique Gardanne depuis plus de 100 ans, il y avait 2 à 3 tonnes de rejets de bauxite. Donc voilà, du traitement de la bauxite. Alors les rejets, Gardanne, c'est quand même pas tout à fait proche de la mer, donc il y avait 60 km de pipeline qui plongeaient pour déposer ces rejets, et c'était des boues extrêmement rouges. Et évidemment, il y a eu quelques campagnes de protestation qui, au bout de quelques décennies, ont fini quand même par déboucher par une mise à l'index de cette pratique. Alors du coup, ils se sont mis justement à faire des grands réservoirs de déchets de bauxite, et puis à faire un processus de désification, quoi, d'allègement de la masse en séchant la matière, et de compression. Et puis le rejet maintenant qu'il y a, c'est une eau claire, donc ils continuent à faire des rejets. Mais ils estiment qu'après tous les filtres qu'ils utilisent, leurs rejets sont à 95% beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient quand ils déversaient les boues rouges. Et du coup, les boues sèches sont stockées en surface dans un massif forestier qui voisine Gardanne, qu'on appelle Manche-Gary. Et là, il y a toute une pratique de digue, justement, mais pour contenir la masse de déchets rouges, très spectaculaire. Hein. C'est une vision, c'est une vision rouge et froid quand on visite ce site.
Alors, Michel Serres, par rapport à cette notion de souillure, explique que voilà, la souillure est liée à la propriété. Et que donc, si on voudrait améliorer l'habitabilité de nos territoires, il faudrait peut-être sortir de cette notion de propriété pour renforcer le bien commun, peut-être en allant vers la location. En tout. Mais Alexis, peut-être par rapport à cette notion de bien commun et du paysage, comment tu vois cela ?
Le paysage, c'est souvent une intrication, une superposition de communs. Une imbrication, c'est même une condition du commun, l'imbrication, d'après Ostrom. Et le paysage, il est dans sa version un peu idéale, en fait, celle de ce projet commun. Il n'est pas uniquement façonné par des relations contractuelles, par des liens de propriété, de subordination. Il est idéalement façonné par des gens qui entendent en prendre soin ensemble, en fait. C'est une définition que donne, je crois, Magnaghi de l'habitant. C'est pas celui qui possède le lieu, mais c'est celui qui en prend soin. C'est le bon locataire, peut-être, mais il n'a même pas de contrat de location non plus. Il peut le squatter, le traverser, l'effleurer, même furtivement. Je pense souvent à cette activité paysagiste totalement bénigne et extraordinaire qu'on appelle un pique-nique. Et quand vous traversez la France pendant vos vacances et que vous choisissez, il y a l'art du pique-nique. Il y a l'art de choisir un coin d'ombre avec une vue, d'y déployer une nappe. Et vous êtes chez quelqu'un en général. Alors vous vous installez pas dans le jardin parfaitement tondu d'une personne, sans quoi elle court appeler les flics. Mais en général, même si quand vous êtes dans un champ, sur le bordure d'un champ, d'un pré, en général, même si l'agriculteur passe, il ne vous dit rien. Si vous laissez pas vos boîtes de conserve ou vos bouteilles d'eau vides. Donc et c'est ça, moi je trouve cette imbrication, elle peut se lire là. Après, si tu habites un lieu et que tu donnes un coup de main à replanter une haie, à entretenir, à recéper des arbres, même si tu n'en es pas le propriétaire, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas plus mal. Et ça conduit même à une, il me semble, et d'après les travaux de certains collègues chercheurs, aussi à une meilleure implication dans la vie civique, dans le territoire. C'est-à-dire que l'interaction fonctionnelle avec un paysage, au-delà de sa contemplation ou du fait de faire du jogging, par exemple, tous les matins sur un chemin, non, l'interaction, en fait, crée un attachement plus fort et une implication derrière plus profonde dans le territoire.
Bon, je vous propose de passer la troisième dégustation. Alors, elle est un petit peu imaginaire. Mathieu, tu veux que je vide là ou... Voilà. Je vais vous servir. Donc, c'est une eau de Négropolis, mais c'est une eau du... On va imaginer, je ne vais pas vous mentir. C'est une eau du congélateur de la cuisine de Négropolis. Pourquoi du congélateur de la cuisine de Négropolis ? Parce qu'on peut imaginer que dans quelques années... On n'aura plus de glaciers. Les glaciers disparaissent, en particulier dans les Pyrénées.
En tout cas, elle sent la glacière.
Ouais. Et peut-être que les seuls glaciers qu'on pourra avoir, en dehors, enfin, on pourrait penser aux glaciers simplement de ces personnes qui font des glaces, hein, bien entendu, mais on les aura dans nos congélateurs, les glaciers.
À Dubaï.
À Dubaï, notamment. Mais même... Chez nous, enfin, dans nos maisons, etc. Pourtant, le glacier, c'est important, à la fois en termes de paysage. Ça permet à l'eau douce de venir progressivement. On sait que ça fait vivre de nombreuses cultures toute l'année, que ce soit
Je vais penser au Gers où j'habite, mais que ça soit sur l'Himalaya, dans ces zones où il y a d'énormes glaciers, on connaît les conséquences, enfin on peut déjà estimer les conséquences que la fonte des glaciers va avoir sur les conditions de vie des populations locales. Donc est-ce que demain, notre seul avenir pour ces glaciers, c'est de les conserver dans des congélateurs ?
Ah oui. Je ne sais pas, on est dans un âge interglaciaire, donc je ne pense pas qu'il faille préjugés comme ça, mais en tout cas, le congélateur est une merveilleuse invention, ainsi que la climatisation, qui ont permis de faire des pistes de ski indoor à Dubaï, ou bien qui ont permis tout simplement l'habitabilité de Los Angeles. Los Angeles est incompréhensible sans l'invention de la clim.
Je pense là tout de suite aux Tokyoïtes qui déplient leur jardin de pot, leur jardin de façade, y compris sur les climatiseurs à l'extérieur des maisons. Ils réintègrent le climatiseur dans l'espace des jardins de pot qui sont organisés dans les rues. Oui, qui sont des jardins de rue, des jardins de façade, des jardins de petits, des micro-jardins concentrés dans des tout petits bacs, pots ornés de figurines qui vont être modifiés chaque jour, qui vont s'échanger d'une maison à une autre et qui prennent le pied de façade, les quelques centimètres au-delà de la porte et du seuil, qui fabriquent un seuil végétal aussi sur ces maisons, dans ces concentrations urbaines extrêmes, et qui grignotent aussi ces boîtiers extérieurs particulièrement affreux, mais que sont les climatiseurs.
Mais par ailleurs, ce qui est fou quand on va voir un glacier, c'est qu'il n'y a pas de blancheur, en fait. Ils sont constellés de trous noirs, parce qu'il y a le carbone suie qui se dépose sur le glacier, puis qui fait des bassines, et comme tu disais tout à l'heure, l'eau elle va chercher son chemin, donc le carbone suie se réunit et fait des sortes de bassines vraiment toutes noires, donc il est parsemé de taches, quoi, le glacier d'Alèche ou plein d'autres, quoi. C'est très très on n'a pas la blancheur pristinienne que nous désirions boire dans notre verre, donc
Mais est-ce que là, pour revenir à la catastrophe, est-ce que la catastrophe pourrait arriver à Négropolis ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une inondation ?
La catastrophe, elle est aussi très diffuse. C'est-à-dire que on en fait toujours appel à elle dans un futur proche, lointain, fictif ou pas. Et puis on a parlé de ces polluants plastiques, on a parlé de ces contaminations diffuses, invisibles. Et la catastrophe, elle est déjà là. En fait, on vit, on l'absorbe. Et tu nous l'as fait boire pendant une heure, et on la vit en fait quotidiennement. Alors peut-être que pour la vivre mieux, on doit l'oublier et la nier et l'occulter. Il est possible malgré tout de décrire. Enfin, je crois vraiment à la puissance de la description, de la mesure, de l'objectivation de ces composants, de ces polluants. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu à remettre en acte, en langage, en écrit, en parole, en récit, à la fois ces pollutions, mais aussi ces services publics, ces ressources, ces organisations humaines, que sont ces gens qui vont passer leur vie à raccorder des tuyaux, à reboucher, déboucher les trous. C'est eux qui donnent aussi cette dimension organique et commune à ce territoire. Donc, plutôt que de parler de catastrophe, on va trinquer plutôt à eux.
Merci Alexis Pernet, merci Mathieu Dupérex pour cette cinquième dégustation donc qui clôt la série des dégustations d'eau qui ont donné lieu donc à des dialogues d'eau également. Merci au public. Et si vous voulez venir déguster, bien entendu, comme chaque jour...
Le dialogue des eaux que vous venez d'écouter a été conçu et animé par Ludovic Roif. L'enregistrement a eu lieu pendant le festival... Le cours de l'eau, la cour et l'eau, à la cuisine, centre d'art et de design à Négropolis, en partenariat avec Les Nouveaux Terriens, l'Observatoire des Imaginaires Ruraux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesnouveauxterriens.fr.